Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la dernière visite radiophonique de la saison 2024-2025, toujours avec Bénédicte Bougnol du Pays d'art et d'histoire Mandelotte en Gévaudan. Salut Béné.
Bonjour.
Et pour le CAUE de la Lozère, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, c'est une nouvelle architecte qui vient avec nous aujourd'hui, c'est Sylvia Welves. Bonjour.
Bonjour.
Alors Béné, on est au bord de la RN88 à Mende, on va s'éloigner mais je crois qu'on va quand même rester au bord de cette route.
Oui, c'est ça, on va quitter Mende, mais on va pas très loin. Et effectivement, on reste sur cette route.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'art et d'histoire Mandelotte en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Ça y est, on est arrivé, très peu de route depuis Mende. Vous entendez toujours les camions, les voitures. On est au bord de cette route nationale 88. On est où, Béné ?
On est à Badarou, à quelques kilomètres de Mende. Alors, tu le sais, hein, la commune de Badarou se situe vraiment au centre du département de la Lozère et elle s'étend de part et d'autre de la vallée du Lot, à 800 mètres d'altitude en moyenne. Alors, elle est constituée du bourg de Badarou, mais aussi de trois hameaux, Pelgère, Nojaré et Lébori. Et ensuite, elle est drainée par plusieurs cours d'eau, le Lot bien évidemment, mais encore on peut citer le Bouissette.
Les reliefs montrent un paysage ouvert qui forme une vallée en U. Les bas des versants dégagent d'assez vastes terres alluvionnaires. Les méandres de la rivière ont adouci la pente de deux versants pour former naturellement des terres cultivables. Et la commune de Badarou est située sur une zone calcaire autour des Sirvans, puis une zone où prédominent les schistes sur les territoires des Badarou, Nojaré et Pelgère. Ce que l'on peut remarquer dans l'architecture du hameau, où se côtoient ces différentes roches, calcaires, schistes et grès. Badarou est catégorisé bourg rural. Il s'agit d'un environnement clément, propice à l'installation des vergers et autres cultures. L'occupation des sols est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, environ 60%. On trouve également des importantes zones agricoles et prairies. La zone urbanisée et les zones d'activité représentent environ les 4%.
Allez, on va poursuivre en allant vers le village, Sylvia. Donc sur ce village, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
En fait, la commune fait partie de l'aire d'attraction des Mende, dont elle est une des communes de la Couronne. Les bourgs s'est étendu le long de la route nationale 88 et depuis les années 70-80, plusieurs lotissements ont été créés sur la plaine, sur les vergers, fait qui a remodelé la physionomie du village. À l'inverse, les hameaux qui n'ont pas bénéficié de l'impact de la route, comme Nojaré ou Pelgère, n'ont pas trop expérimenté de nouveaux projets d'urbanisation.
Ben là, on est maintenant à côté de l'église, rue du Chastel, donc on peut entendre du bruit. Il y a une réfection au niveau de la toiture, il y a des couvreurs là actuellement qui changent les lozes. Cette église, elle est située rue du Chastel. Est-ce qu'on connaît les origines du village, Béné ?
Alors, ce qu'on sait du village, en fait, c'est qu'il va se développer au Moyen-Âge. Je ne sais pas si tu te rappelles, Ludo, mais comment le Gévaudan était partagé au Moyen-Âge ? Nelly, elle a plusieurs fois évoqué cette partition du territoire lors de précédentes visites. En fait, au Moyen-Âge, le Gévaudan est partagé en trois. Tu as d'un côté les terres du roi qui sont autour de Marvejols. Tu as les terres de l'évêque qui sont plutôt autour de Mende. Et ensuite, le reste du territoire est partagé en terres communes, partagées avec les huit baronnies. Alors, les terres de l'évêque, elles se concentrent autour de Mende et de la vallée du Lot, entre Chanac et Badarou. Le village de Badarou appartient donc au domaine épiscopal. Alors, c'est un endroit stratégique, hein, c'est vraiment un poste avancé. On est ici à l'est de Mende et à la croisée des chemins comme la route du Velay ou les routes du plateau du Palais du Roi. Donc, à cet endroit stratégique, on va bâtir un château pour recevoir l'évêque. La première mention de ce château remonte au XIIe siècle. On sait aussi que dès la deuxième moitié du XIIIe siècle, l'évêque Odilon de Mercœur préfère son nouveau château qu'il a construit à Balsièges, Le château de Badarou, en fait, va être délaissé et ne remplit plus qu'un rôle secondaire à partir de ce moment-là. On sait aussi que le château est détruit au XVIe siècle et qu'il a totalement disparu aujourd'hui. Alors, le village va se développer au contact du château de l'évêque sous la forme d'un castrum. Tu te rappelles ce que c'est un castrum, Ludo ?
Oui, absolument. C'est un ensemble fortifié composé d'un château et d'un village.
Waouh, impressionnant. Effectivement, en l'état actuel, c'est impossible de définir l'emplacement exact du château ainsi que l'emprise de l'enceinte fortifiée. On a quelques indices avec le nom des rues, comme la rue du Chastel ou la rue de la Tourelle, et quelques éléments architecturaux, qui invitent à le situer plutôt au nord de l'église actuelle.
En parlant de l'église, on est devant, elle n'est pas ancienne, non, Sylvia ?
Non, effectivement, l'église de Badarou actuelle, elle n'est pas très ancienne. Néanmoins, l'église de Badarou était déjà mentionnée pour la première fois au IIe siècle. Et c'était une étape entre les puits vers Rodez, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et cette église avait été détruite en 1580 lors des guerres de religion et elle est rebâtie 88 ans plus tard. Elle est remplacée en 1874 par l'église actuelle en bordure de la route. Et le cimetière attenant a été également déplacé au milieu du 19e siècle. L'église actuelle, dans un style néo-gothique, est de plan en croix latine, à une nef de trois travées, deux chapelles ouvertes sur la première travée et un chevet plat. Elle est voûtée d'ogives reposant sur des pilastres. Les grosses œuvres est constituées de pierres de taille calcaire et la toiture est à deux pans. La façade principale est surmontée d'un clocher carré, des contreforts épaulent la façade et les murs latéraux. Ce modèle clocher-porche surmonté d'une flèche suit les modèles répandus par les architectes du diocèse de la fin du XIXe siècle, comme au Chastel-Nouvel et à Pelouse.
Il pleut, on va se mettre à l'intérieur ?
Oui, on va se mettre à l'abri.
Ça y est, on est à l'intérieur. Les vitraux sont bien jaunes, hein, ça donne une atmosphère spéciale.
Oui, mais quand même, comme souvent dans les églises du XIXe siècle, l'intérieur de l'église de Badarou est très sobre. Les murs ne sont pas jaunes, mais ils sont blancs, et le décor et le mobilier sont très épurés. Et donc c'est vrai qu'il y a des vitraux pour réchauffer un peu l'ambiance, mais sinon elle est très très simple. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas repartir de l'église de Badarou sans jeter un œil à un élément remarquable, au mécanisme de son horloge. Est-ce que tu savais qu'il y avait un mécanisme d'horloge exceptionnel dans l'église de Badarou ?
Mais pas du tout, je l'apprends, comme souvent dans cette émission.
À la fin du XIXe siècle, en fait, on décide d'équiper l'église de Badarou d'une horloge. On choisit une horloge à deux cadrans et qui va être installée dans le haut du clocher. Pour cela, il faut acheter un mécanisme et le conseil municipal vote l'achat de ce mécanisme le 17 juin 1888. Le marché est attribué à Germanique Martin, qui est horloger-bijoutier à Mende, et c'est lui qui va choisir un mécanisme de la marque Prost Frères. C'est une horlogerie du Jura. Alors, le mécanisme va fonctionner durant un siècle et avant d'être remplacé par un appareil électronique en 1987. Alors, aujourd'hui, le mécanisme a été démonté, il a été révisé et protégé, et il est présenté au public dans le porche de l'église. Donc tout le monde peut le voir maintenant, et c'est un très bel exemple visible du patrimoine horloger lausérien.
Allez, en ressortant, on va aller le voir. Et on va espérer qu'il ne pleuve plus. Ah voilà, il est derrière une vitre devant cette entrée, d'accord, avec une petite historique. Ah oui, c'est impressionnant, hein ?
Très impressionnant, oui, c'est une belle mécanique.
Allez, on s'avance, on va à la place, juste à côté de la rue de l'église. Pourquoi on vient ici, Béné ?
Oui, parce que avant de partir visiter le village, je voulais dire un mot sur les croix remarquables que l'on pouvait observer sur la commune de Badarou. Alors, tu le sais, hein, en Lozère, depuis longtemps, la foi chrétienne est une composante essentielle de l'histoire et ces marques sont partout présentes. Ainsi, on va trouver des croix qui jalonnent les chemins. Elles signalent les limites et bornent les terrains. Elles signalent les lieux de mémoire et de recueillement et même les lieux de pèlerinage. Et il faut savoir que Badarou est une des communes où la concentration de croix sculptées remarquable est très importante. On peut citer entre autres la croix des Boris, la croix de Sirvins ou encore celle de Pelger. Et ici, on est devant la croix de la Placette. Alors, elle n'est pas à son emplacement d'origine, elle a été déplacée, mais c'est l'une des croix les plus ouvragées. Elle est datée de 1811 et porte les initiales de Toussaint Copère. C'est le curé qui l'a commandée. Et pour la décrire, hein, on peut juste signaler qu'on peut y voir un haut fût monolithe qui porte une croix sculptée d'un Christ. Et ensuite, sur le piédestal, on peut voir les symboles du culte catholique, des calices, des ostensoirs et des cloches.
Donc, on voit la croix sur notre droite et en face de nous, on voit une maison, une propriété privée, mais il me semble que avant, ça ne devait pas être ça. Je vois un hublot et une genre de pied de colonne et qui sépare l'habitat en deux. C'était quoi, Béné?
Alors, c'est l'ancienne école publique de Badarou. Mais je laisse la parole à Sylvia qui va tout te raconter.
Oui, donc cette école a été transformée en poste et aujourd'hui, c'est effectivement une maison privée. Mais on peut encore deviner la cour de récréation. Ce bâtiment a été construit en 1881 et à cette époque, il y avait plusieurs écoles à Badarou, deux écoles publiques, donc ici c'est l'école pour les garçons, et à la mairie se trouvait l'école pour les filles et les petits. Et il y avait aussi une école privée, c'était l'école des sœurs au couvent, qui a été environ les années 1900. Aujourd'hui à Badarou, il y a une école publique et une école privée, et elles sont situées toutes les deux de l'autre côté de la RN 88. Si on parle du coup de l'ancien couvent, et ces bâtiments étaient construits à la fin du 19e siècle et à une façade aux ouvertures généreuses et bien ordonnancées, une toiture en lauze et des beaux enduits extérieurs. Les bâtiments composés de deux corps, des bâtiments en pierre d'une largeur moyenne de 5 mètres, offrent une surface d'environ 400 mètres carrés. Il a habité deux ou trois sœurs et a servi d'école en 1900. En 2021, dans le cadre de la démarche Commune Nouvelle Ville, un inventaire des biens vacants à Badarou a été établi et ceux-ci se sont avérés peu nombreux et ne présentant pas principalement des difficultés majeures pour la réhabilitation. Seulement l'îlot de l'ancien couvent a fait objet d'une fiche conseil réalisée par les CAUE pour aider à la réflexion sur l'avenir, les devenirs et les programmes et portages des bâtiments. Donc cet ensemble bâti s'inscrit dans le cœur historique de Badarou en jonction avec les grands équipements construits plus récemment, donc la mairie, la salle communale, crèche et commerce. Et face à la demande importante des logements, les scénarios s'orientent principalement sur la création de logements de préférence intergénérationnels afin que cet immeuble remarquable devienne un lieu de vie et de partage entre les futurs habitants, les écoles et plus largement les Badarousiens.
Un bâtiment très similaire et il nous racontait qu'il avait la moitié du bâtiment, c'était une extension, c'était l'école.
Alors Ludo, est-ce que tu sais que ce couvent et plus particulièrement son ancienne infirmerie est un lieu chargé d'histoire ?
Non, pas du tout, dis-moi.
En fait, cette petite maison juste à côté du couvent a abrité la famille Rajnoudel durant la Seconde Guerre mondiale. Alors cette famille était composée de 7 personnes, le père Abraham, la mère Aranka et les enfants, Jacqueline, Jean-Claude, Claudine, Marcel et la plus jeune fille Eliane, née en juin 1943, Amande. Abraham, le père, était d'origine polonaise, il avait émigré en France en 1924. La famille était installée à Paris depuis les années 1930, 4 enfants sont nés à Paris. Fin 1941, il se déplace en zone libre en Lozère, le père travaille alors comme tailleur à Mende. Le 8 février 1944, la Gestapo arrête la mère et ses 4 filles dans la petite infirmerie, puis va récupérer Jean-Claude à l'école. Il sera ensuite retenu à la prison de Mende. Abraham, qui travaillait à Mende, échappe à l'arrestation. Le 10 février, Aranka et ses enfants sont transférés à Montpellier puis sont envoyés au camp de Drancy. Le 7 mars, Aranka et ses 5 enfants sont déportés à Auschwitz, où ils sont gazés dès leur arrivée. Le père a survécu à la guerre, il est retourné vivre à Paris. Et en fait, c'est une histoire qui est vraiment très importante pour les habitants de Badarou. Si tu regardes bien, il y a une plaque qui est apposée sur la maison que la famille occupait et qui raconte un petit peu cette histoire. Et depuis 2010, l'école publique de Badarou porte le nom d'Eliane Rajnoudel, la plus jeune des enfants qui était née en Lozère.
Cette histoire, Béné, me rappelle une autre histoire que vous m'aviez racontée lors de la visite radio consacrée aux 80 ans de la libération à Mende.
Oui, tu dois parler de l'histoire du ravin de la Tourette.
Oui, absolument, c'est ça.
Oui, c'est ça. Alors, pour rappeler cette histoire, hein, le 28 mai 1944, à la parade hein, sur le Cosmejan, 27 combattants du maquis de Bir Hakeim ont été faits prisonniers par les Allemands. Ils sont transportés à Mende au siège de la Gestapo, hein, tu te rappelles, dans la maison lyonnaise, pour être interrogés puis torturés. Le lendemain, le 29 mai, on les conduit dans un ravin sous le col de la Tourette, près de la voie ferrée sur la commune de Badarou, pour les exécuter. Et donc tu vois, en fait, c'est pas très gai, mais ce sont deux épisodes marquants pour la commune de Badarou, hein, qui n'oublie pas et qui chaque année organise des journées du souvenir et des commémorations.
Voilà, on s'est enfoncé dans le cœur du village. Alors, j'allais te dire, mais c'est beaucoup plus calme, on n'entend pas les voitures, hein, vraiment, là, à quelques encablures de la route nationale 88. Par contre, on entend le bruit de l'eau.
Oui, c'est ça, parce que, en fait, tu as peut-être remarqué qu'en s'enfonçant au cœur du village, que le village avait conservé quand même un beau patrimoine vernaculaire. Hein, et surtout, on peut aussi remarquer que le village s'est construit autour de l'eau. En fait, le village de Badarou ne s'est pas du tout développé près du Lot au départ. On l'a déjà dit, hein, mais le Lot est une rivière qui est considérée comme capricieuse et les habitants vont rester vigilants face au risque de crue. Alors le village, il va plutôt s'implanter autour du ruisseau de la Fon, je ne sais pas trop comment on dit, à l'Occitane, quoi, qui coule juste là. Et on a aussi le passage du Riou, ça signifie ruisseau en occitan. Et alors le ruisseau, il est aujourd'hui canalisé, mais il était très présent lorsqu'on a implanté le village. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les habitants, depuis très longtemps, ils ont capté les sources et les résurgences. D'ailleurs, de nombreuses maisons hein, du village possèdent un puits. On a également, et comme tu peux l'entendre, de nombreuses fontaines. On est ici devant la fontaine du milieu. Elle est construite aux environs de 1830. Et on peut encore deviner juste ici les traces d'un ancien abreuvoir qui servait à faire boire les animaux au centre du village. Alors dans les fontaines du village, on peut citer la fontaine du Farinel, hein, qui elle a conservé ses abreuvoirs. On peut citer aussi la fontaine de la Route, hein, qui est couverte d'une voûte non loin de l'église, la fontaine du Pestre ou encore la fontaine des Trois Maries. On sait qu'il y avait aussi plusieurs lavoirs, mais ils ont disparu aujourd'hui. Et on sait que l'adduction en eau potable a été faite à Badarou en 1958. Alors Sylvia vous en a un peu parlé tout à l'heure, hein, mais le Lot en contrebas du village forme une vallée, hein, une espèce de plaine, qui était quant à elle propice à la culture des arbres fruitiers et des vergers. Parce que comme ça on pouvait laisser le Lot sortir de son lit en cas d'inondation. Alors sur le Lot, à la sortie du village, on a un ancien moulin et qui est d'ailleurs en cours de rénovation.
Tout le long de parcours en centre-bourg, on a plusieurs exemples de l'architecture typique de Badarou. Donc, on trouve une grosse œuvre en appareil de schiste, donc d'une couleur plutôt sombre ou ocre. Et après, on va voir les chaînes d'angle, les encadrements, soit en calcaire, soit en grès. Pour la charpente, ça va être une charpente en bois, avec une toiture en losse de schiste et une pente qui va varier entre 60 et 80%. Donc on ne trouve pas de lucarnes sur les toitures. Et on va trouver des coups pas mal des portes cochères. Donc des comme accès complémentaires à l'entrée des maisons.
Alors si tu veux, hein, maintenant Ludo, on va emprunter justement le passage du Riou, hein, ce petit ruisseau qui a été canalisé pour se diriger vers la RN 88 de nouveau.
Allez, allons-y. Voilà, et en empruntant ce passage du Riou, on voit tout autour des jardins, des potagers.
Et oui, c'est ça, ça rappelle un peu le passé de Badarou avec toutes ces maisons qui étaient des fermes et donc on cultivait son petit potager, son petit carré autour de sa maison.
Voilà, donc on est arrivé à la route nationale 88. Alors on s'est mis un peu en contrebas hein, pour ne pas entendre les voitures qui passent parce que c'est une route qui est très fréquentée.
Effectivement. Cette ancienne route royale, axe routier essentiel du département reliant les Puy-Amandes et au Rouergue, a été élargie au 19e siècle et a fait disparaître les maisons les plus anciennes, notamment celles du 17e siècle. Le long de la route s'alignent aujourd'hui quelques grandes maisons dont les portes décorées et des boutiques témoignent du développement de l'activité commerciale liée au trafic routier. Ce développement a entraîné également la création de lotissements dans les deuxième moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, l'avenue Jean-Antoine Chaptal constitue une séquence importante de la traversée des Badarous, étant une centralité dans la vie quotidienne des habitants et très présente dans l'itinéraire de chaque personne traversant Badarous. Une fiche conseil a été réalisée par les CAUE en 2022 pour créer de nouveaux cheminements piétons. Les passages vers les bergers et les quartiers résidentiels, liaison de la traversée, lien vers les centres-bourgs par les ruelles et les valas. La question du stationnement fait partie de la réflexion.
Bon, et t'as compris, hein, Ludo, que les voies de communication, en fait, vont suivre le Lot. Il y a bien évidemment la route nationale, mais il y a aussi, et encore une fois, le chemin de fer. Alors, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup parlé du translosérien dans nos visites radiophoniques, mais c'est quand même important de rappeler que Badarou, c'est le premier village qui est desservi sur le tronçon reliant la ligne reliant Mende à la Bastide. Le train ne s'arrête plus aujourd'hui, mais la gare a été conservée. Et quand même, on peut citer un ouvrage d'art remarquable que les Lozériens connaissent mal parce qu'on ne le voit pas. En fait, à Badarou, sur la commune de Badarou, on a le viaduc du Grunieret. Il est très beau, mais il est totalement méconnu du grand public parce qu'il est dissimulé dans la verdure et qu'il n'y a pas d'accès carrossable. Donc c'est vrai qu'on ne le connaît pas. Et pourtant, c'est le plus grand et le plus élégant pont de la haute vallée du Lot. Alors, il est constitué de 5 arches, dont une, la plus à l'ouest, est elle-même surmontée de 6 arches symétriques et elles assurent en fait la répartition de la charge. Et ce viaduc, en fait, du Grunieret, il va relier l'éperon nord du Causse de Mende, qui descend jusqu'à Sirvins, rive gauche, et il va relier la rive droite sous le quartier de l'Escale de Badarou.
Voilà, pour terminer cette émission, est-ce qu'il y a une actualité ici à Badarou pour le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Lozère ?
Mais oui, il y a mon collègue Nicolas Guignot, paysagiste au CAUE, et l'animateur biodiversité climat, désigné par l'AREL, qui travaille actuellement avec une classe d'élèves de l'école publique dans le cadre des programmes Cours Oasis. L'objectif est de renaturaliser l'espace extérieur des écoles, réintroduire la biodiversité et repenser les zonages pour améliorer le confort, surtout l'été, et réduire les conflits. Le 22 mai, il revient pour la deuxième séance de programmation. À l'aide d'un jeu de cartes avec des images, des références, nous accompagnons les élèves dans la réflexion du diagnostic jusqu'à la conception.
Voilà, et c'est bientôt terminé, on arrive au mois de juin, et donc l'école, elle se termine bientôt pour les élèves, et ça va être le temps de retrouver les animations estivales, dont celle du Pays d'Art et d'Histoire.
Exactement, et donc pour cette dernière visite radiophonique de la saison, je peux annoncer la 17e édition du Festival musical du Pays d'Art et d'Histoire. Alors cette année, nous vous proposons 8 concerts entre le 11 juillet et le 19 août sur l'ensemble du territoire du Pays d'Art et d'Histoire. Alors le programme sera bientôt disponible en ligne ou dans les offices de tourisme notamment, mais je peux déjà vous annoncer que dans le secteur de Badarou, nous serons le mardi 22 juillet à l'église de la Rouvière sur la commune de Pelouse pour un concert du trio Les Passagères.
Et pour terminer en beauté, bien sûr, les anecdotes. On a une anecdote pour briller en société, Béné ?
Oui, alors pour cette anecdote, je te propose une petite devinette, Ludo. Nous cherchons une personnalité. Alors, je suis née le 5 juin 1756 à Nojaré, sur la commune de Badarou, et mort le 29 juillet 1832 à Paris. Je suis inhumée au cimetière du Père-Lachaise. Après un enseignement à Mende, je commence des études de médecine à Montpellier avant de me rendre à Paris pour étudier la chimie. Ma renommée est due aux applications que je fais de la chimie dans l'industrie.
Jean-Antoine Chaptal.
Ouah, t'es trop fort, Ludo. Bon, t'as trouvé rapidement, mais je continue quand même, hein. Donc sa renommée est due aux applications qu'il fait de la chimie dans l'industrie. Il crée une fabrique de produits chimiques qui le fait connaître dans toute l'Europe.
Dès 1786, il reçoit de Louis XVI des titres de noblesse et devient le comte de Chanteloup. Il est nommé ministre de l'Intérieur en 1801 par Napoléon. Il est à l'origine d'une réorganisation complète de l'instruction publique et en particulier de la création de l'école des sages-femmes en 1802. Il donne son nom à un procédé permettant d'augmenter par sucrage la teneur en alcool des vins. C'est la chaptalisation et vous avez tous trouvé, il s'agit de Jean-Antoine Chaptal, chimiste et homme politique français, né à Nogaret sur la commune de Badaroux.
Eh bien merci Béné, merci Sylvia, une prochaine j'espère pour une nouvelle émission.
Avec plaisir, ouais.
Et Béné, on se retrouvera bien sûr l'an prochain, on va pas donner de thème hein, parce qu'on ne sait pas encore, ce sera en septembre donc on a le temps. Et en attendant, on souhaite un bon été.
Bon été.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoirement des Lot-en-Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.